Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Bruno Picard. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
Ambulante, capable de renverser n'importe quelle forteresse spirituelle. Et ce soir, l'ennemi a peur. Il a peur d'une église qui loue. Il a peur d'une église qui boue. Il a peur d'une église qui chante. Il a peur d'une église qui saute. Il a peur d'une église qui avance avec la puissance de la louange. La louange est une embuscade pour Satan. Quand je loue Dieu, c'est Dieu qui prépare une embuscade pour mon ennemi. Vas-y Laurent, vas-y joue ça. Plus fort, plus fort. Célèbre ton roi ce soir! Si tu aimes Jésus, crie ouais! Crie ouais! 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 Hey! Hey! Parce que les anges viennent là où il y a la vie de Dieu. Parce que quand Dieu vit quelque part, il parle. Sa vie parle. Et Dieu ce soir te dit, Église, tu es plus que vainqueur. je suis plus que vainqueur en toi. Ensemble.
Je suis plus que vainqueur en toi.
Ah, ah, ah.
Je suis plus que vainqueur en toi.
Oh, oh clap.
Je suis plus que vainqueur en toi.
Église à vous. Magnifique, plus fort, à vous. Regarde ton voisin, dis tu es plus que vainqueur en lui. S'il ne rigole pas, s'il pleure, tu cries à son oreille. 1, 2, 3, 4.
Tu es plus que vainqueur en lui.
Hey, plus fort.
Tu as changé ma tristesse en une danse de joie. Mon cœur ne peut se lasser de chanter, chanter.
La foi.
Tu as changé ma tristesse en une danse de joie. Mon cœur ne peut se lasser de chanter, chanter.
Hey, le tournoi. Avant de t'asseoir, prends quelqu'un dans tes bras et lance-le dans le ciel.
Sorobado sedo tio balai. Sabombe de serendi, io lo so don chakende. Kusumbara dandi lo so bomba. Siga e non so bombe, tondo bombe, tio balai. Sera bradé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ton bâton, ma houlette me rassure. Tu es le grand je suis, tu es le bon berger, et ta main est sur ma vie. Et c'est pour toi que je vis, c'est en toi que je vis, ô roi. 6000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche. Je ne craindrai aucun mal. Oh, ton bâton, ta houlette me rassure. Je peux faire face à mon lendemain, car tu es en moi, tu es avec moi. Ta présence me rassure, Seigneur. Et c'est toi qui me fais chanter, c'est toi qui me fais louer. Tu es en moi, tu es mon roi. Et ton bâton me rassure. Et ta houlette m'accompagne. Et si j'exerce l'autorité, c'est ton autorité que tu m'as donnée. Tu m'as dit, allez et va dans le monde et fais de toutes les nations des disciples. Oh, rien ne m'arrêtera. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de ton évangile. Tu es à moi, je suis à toi. Quand je marche avec toi, tu es avec moi, rien ne m'arrêtera. Oh, mon âme bénit ton salon. Oh, mon âme bénit, bénit, bénit ton salon. Mon âme bénit ton salon. Tu es à moi, je suis à toi pour l'éternité. Yeah. Oh. Si je marche, je marche, je marche, je ne crains aucun mal. Oh, et si je marche, je marche, je marche, je ne crains aucun mal. Et si je marche, je marche, je marche, je ne crains aucun mal. Oh, chante avec moi. Et si je marche, je marche, je marche, je ne crains aucun mal.
Oh, oh, oh
yeah. Si je marche, je marche, je marche, je ne crains aucun mal.
Ouais, église.
6000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal. Oh, 6000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal. Oh, et 6000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne crains aucun mal.
Ensemble.
Et si mille tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne crains aucun mal.
Encore une fois.
Mille tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne crains aucun mal.
Proclame, prophétise, change l'atmosphère.
Chante, mille tombent à ma gauche, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne crains aucun mal. Ensemble, ensemble.
1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne crains aucun mal.
Car tu es là avec moi.
1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne crains aucun mal.
Ton bâton me rassure.
1000 tombent à ma gauche,
10 000 à ma droite, je ne crains aucun mal. Quand je me lève le matin, mon âme est remplie de ta joie. Et ta joie est ma force, Seigneur. Oh, ton esprit souffle en moi. Et quand je sens le souffle de l'ennemi sur ma nuque, je ressens ton souffle dans mon cœur. Oh, oh, je ressens ton souffle dans mon cœur. Et quand je fais face à l'enfer, tout le ciel est là pour m'écouter, m'encourager, m'édifier. Tout le ciel est là ce soir pour toi et pour moi, et tu ne craindras aucun mal. Église, église, église. Je sens la pluie de l'arrière-saison. Dieu dit, demande-moi la pluie, demande-moi le vent, demande-moi la joie, demande-moi la paix, demande-moi la force, demande la puissance. Demande tout ce que tu veux, car ce soir je suis là, je suis en toi, je suis avec toi, et je ne suis pas un Dieu qu'on met dans une boîte. Je suis plus que puissant, je suis le grand, je suis le Dieu éternel, le Créateur, je suis là avec toi, oh, je suis là avec toi, Église. Mettons là ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne crains aucun mal.
Mille tombes à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne crains aucun mal.
Mille tombes
à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne crains aucun mal.
Et ce soir Dieu dit, je dresse devant toi une table face à tes ennemis. Oh, je te rejoins si tu es au front, et toi et moi nous allons avoir la victoire. Car je suis avec toi. Je ne suis pas un Dieu religieux. Je ne suis même pas chrétien, dit Dieu. Car je n'appartiens à aucun mouvement. C'est moi le mouvement. Je n'appartiens à aucun mouvement. C'est moi le mouvement. Et le roi droit de ce soir, laisse-moi souffler en toi. Le souffle de ma joie, laisse-moi souffler en toi.
La place avec moi ce soir, ensemble.
Laisse-moi souffler en toi. Le souffle de ma joie, laisse-moi souffler en toi.
Magnifique, ensemble. Plus fort.
Laisse-moi souffler en toi. Souffle de la joie, laisse-moi souffler en toi.
Oh, je vais entendre le peuple chanter.
Laisse-moi souffler en toi.
Souffle de ma joie,
laisse-moi souffler en toi.
Plusieurs ce soir dans ce lieu, vous avez du mal à ressentir cette victoire. Vous y croyez avec la tête peut-être. Et vous avez cru pendant un temps. Et vous êtes dans une saison où le diable veut vous faire croire que la victoire n'est plus accessible. C'est un mensonge. Il veut vous faire croire que vous allez vous prier, chanter, louer. Vous ne verrez jamais le bout du tunnel. C'est un mensonge. Le diable est un menteur. Je l'appelle Lucie Lucifer, c'est une femmelette. Je n'ai aucun respect pour le diable. Je le déteste avec un amour parfait. Autant j'aime Dieu, autant je déteste l'ennemi. Mais je me rends compte que l'ennemi aujourd'hui a dans ma vie, un but extraordinaire pour lequel je vais le remercier. Parce que sans ennemi, il n'y a pas de combat. Et sans combat, il n'y a pas de victoire. Et sans victoire, il n'y a pas de victoire. Dieu est en train de dire à son peuple, change ta perception. Si tu vois un ennemi, ne vois pas un obstacle ni un ennemi. Vois une marche sur laquelle tu vas marcher et grandir et passer au-dessus. L'adversité est le petit déjeuner des champions. L'adversité est le petit déjeuner des champions. Et je ne suis pas un vaincu. Je suis convaincu d'être vainqueur. Oh, souffle en moi, Seigneur, le souffle de ta victoire. Souffle en moi, Seigneur. Souffle en moi,
avec force ce soir,
avec force ce soir, souffle. Ta famille et tes finances et ton voisinage et ta santé et ton corps et tes émotions. Hey, le souffle de ta victoire souffle en moi, si Dieu est pour toi, dis-moi, qui est contre toi? Ce soir, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, te rappelle une chose toute simple. J'ai choisi de venir vivre en toi. J'ai choisi, dit Dieu, de venir vivre en toi. Et cela fait de toi la demeure la plus chère de l'univers, inestimable. Rien ni personne ne peut te ravir de ma main. Je siège au milieu des louanges de mon peuple, dit Dieu, et ce soir, je suis là pour guérir, pour toucher et pour fortifier. Je t'invite à ma table ce soir. Je t'invite à me redécouvrir s'il le faut. Mais sache que ce soir je suis là pour toi. Je t'aime d'un amour éternel. Dans le nom de mon Fils Jésus-Christ, je déclare que son nom nous a unis et que mon esprit, dit le Père, nous unis. Que mon esprit ce soir, dans ton cœur, crie Abba Père. Abba Père. Cela signifie que lorsque je te vois, dit le Père, je vois mon Fils. Quand je te vois, je ne vois plus un pécheur loin de moi. Je vois l'image de mon Fils en formation dans ton âme, dans ton cœur. Je t'aime, dit le Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, dit le Saint-Esprit. Je t'aime, dit Dieu le Père. Quand vas-tu comprendre que je suis pour toi? Quand as-tu accepté ma puissance? Le diable maintenant même est allé se cacher dans les grottes. Il se cache car il a peur de la louange qui sort de ce lieu. Il se cache car il sait que ce soir, mon peuple a touché le pan de ma robe. Et les anges ont pris place partout, partout, autour de vos maisons, de vos demeures. Maintenant même, ils montent la garde et ils attendent que vous deveniez la voix de Dieu. Ils attendent que vous deveniez la voix de Dieu. J'aimerais saluer nos amis du Canada. Bienvenue. Merci d'être là ce soir. J'aimerais saluer ceux qui viennent de métropole, ceux qui viennent de Chine, de Shanghai, de Pékin, ceux qui viennent du tampon, ceux qui viennent de Moscou. Je veux aussi dire bonsoir à tous ceux et celles qui écoutent nos messages sur Internet. Maintenant, on est très heureux de savoir qu'il y a littéralement plusieurs centaines de personnes qui écoutent nos messages maintenant même. Et j'aimerais simplement que Hosanna puisse pousser un grand cri d'accueil pour tous ceux et celles qui nous écoutent maintenant. Vous êtes prêts? Dites bonjour à toutes. Voilà, c'est du créole, ça veut dire bonjour à tous. Je suis fort en traduction. Je ne vais pas prêcher longtemps ce soir, mais j'ai vraiment à cœur. Alors que je priais aujourd'hui, j'ai jeûné, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai passé du temps sur mes deux genoux en disant « Saint-Esprit, je t'en supplie, donne à ce peuple la soif d'être vraiment assoiffé par ta présence. Donne-nous, Seigneur, ce soir d'avoir le désir de te connaître plus que jamais auparavant. Parce que plus que jamais, je suis conscient que ce ne sont pas les talents et les dons, ce n'est même pas l'argent, ce n'est pas l'intelligence, ce ne sont pas la lumière et les grandes salles qui vont sauver un monde en perdition, c'est la présence de Dieu. De quelle façon voudrais-tu que les gens se souviennent de toi? Ou en ce moment, que disent les gens de toi? Est-ce qu'ils disent que tu es quelqu'un de bien? Que disent les gens de l'église? Est-ce qu'ils disent que l'église, Hosanna, est-ce que c'est une église sympa? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est trop jeune, trop brillante, trop voyante, trop ennuyante, trop yante? Ou est-ce qu'il dit ce soir que cette église est l'église dans laquelle nous avons la présence de Dieu? Est-ce que dans ta vie, les gens qui t'entourent peuvent te dire « Je vois la présence de Dieu ». Il y a une semaine de cela, je priais le matin et ma petite fille Anna est venue dans ma chambre le matin très tôt. Elle m'a dit « Papa, j'aime quand tu pries ». Je dis « Pourquoi ma chérie ?» Elle m'a dit « Parce que je ressens la présence des anges ». Je me suis rendu compte à ce moment précis qu'il est important pour nous les parents de ne jamais, jamais sous-estimer l'impact que vous et moi nous pouvons avoir dans notre propre maison. Et si nos maisons sont remplies de la présence de Dieu, l'église sera remplie de la présence de Dieu. On ne peut pas avoir une église remplie de la présence de Dieu si nos maisons sont vides de la présence de Dieu. Dans Exode 33, au verset 14, un passage très connu où lorsque Dieu parle à Moïse, et il dit à Moïse, dans Exode 33, 14, il nous dit, « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. » Au verset 16, Moïse parle avec Dieu et il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Tout le monde dit, trouver grâce à ses yeux. Moi et mon peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. S'il y a une chose qui va nous distinguer de tous les autres peuples de la terre, c'est la présence de Dieu. Mais je ne parle pas ce soir de cette onction de... Vous savez, il y a des moments où il y a des églises, où il y a des moments forts, des moments loin, des moments où tu sens que tu as l'onction dans ta vie. Ça, c'est bien, mais ça, c'est trop aléatoire. Je te parle de la présence tangible, du poids de la présence, du poids de la gloire de Dieu dans ma vie. Pas ce concept mystique, pas une bonne idée, la présence de Dieu. J'aime ce passage en Psaume 27. Au verset 4, où David dit, il fait une prière extraordinaire, et David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Oh, Église. Est-ce que ce soir vous savez que Dieu, le Dieu créateur, habite en toi et moi si tu as fait de lui ton sauveur et ton Seigneur? Alors, je ne sais pas si... Combien d'entre vous ce soir, vous êtes locataire d'une maison? Ok. Imaginons ce soir que votre propriétaire vienne frapper à la porte de ta maison et dise « Est-ce que je peux venir vivre chez toi ?» Parce que la réalité, c'est que Dieu Tout-Puissant possède notre âme, notre corps, notre esprit, notre vie lui appartient. Et malgré tout, il vient ce soir en disant « Puis-je venir habiter chez toi ? Puis-je louer ta vie ?» C'est un privilège pour vous et pour moi ce soir de comprendre une chose extrêmement importante, Église, que vous et moi, nous avons comme locataire Dieu. Dieu qui peut demeurer dans n'importe quel château, palace, il remplit la terre entière, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, tout-puissant, il sait toutes choses, il est présent partout et Dieu décide de louer ma petite vie. C'est un privilège, mais c'est aussi une immense responsabilité. Que ce soit de dire « Seigneur Jésus, tu habites en moi, permets-moi de t'accueillir comme il se doit. Je veux réellement t'accueillir ce soir comme il se doit. » Je veux encourager l'église d'Hosanna ce soir à prendre une décision radicale, ferme et irrésolue, quelque chose qui ne puisse pas changer, résolue à vie. Faisons en sorte que le Saint-Esprit soit toujours accueilli et célébré comme il se doit. J'étais dans une église il y a des mois de cela, pas ici, ailleurs, et quand je suis arrivé dans l'église, le Saint-Esprit pleurait. Littéralement, il pleurait et j'avais envie de pleurer avec lui et je me suis retenu. Il dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu pleures avant comment que je commence à prêcher, je n'y vais pas non plus. Je reste assis sur ma chaise. Je fais comme si je tombe mort. M'envoie pas. Il me dit, s'il te plaît, si tu y vas ce soir, si tu prends la parole, si tu ouvres ta bouche, ne me laisse pas dans une boîte. Parce que je suis là pour toucher un peuple qui a besoin de ma présence. Mais si toi... dans lequel je demeure, si tu m'empêches de sortir, si tu m'empêches de me manifester, je ne me manifesterai pas car je suis locataire chez toi. La maison m'appartient, mais je viens louer la maison que je t'ai donnée. Entre termes, vous et moi, nous avons le privilège et la responsabilité de pouvoir laisser Dieu agir ou ne pas laisser Dieu agir. Et ce que Dieu fait en toi, écoutez ça, ce que Dieu fait en toi, il veut le faire aussi au travers de toi. Dès l'instant où tu laisses Dieu travailler dans ton cœur, tu es qualifié pour laisser Dieu travailler au travers de ton cœur. Seul celui ou celle qui permet au Saint-Esprit de travailler profondément dans son âme est qualifié pour devenir l'expression de ce que Dieu a fait en lui. Quand on est membre d'un groupe de louanges, lorsqu'on est membre d'un groupe de maison, lorsqu'on est leader ou pasteur, nous ne sommes pas censés chercher Dieu lors des réunions. L'estrade est une extension de ma vie privée. Ce que Dieu fait en moi me qualifie pour que Dieu fasse aux autres ce que Dieu a fait en moi au travers de moi. Donc, je me suis ou pas? Dans Exode 3, 11, et on connaît bien ce passage, et Moïse... vient voir un buisson qui est en feu, en flamme, et qui ne se consume pas, et se détourne pour voir pourquoi est-ce que le buisson est ardent. Le buisson est en feu, ne se consume pas. Verset 11, Dieu lui parle et Dieu lui dit, j'ai une mission pour toi, très simple. Tu vas aller sauver, délivrer mon peuple. Tu les fais quitter l'Égypte et tu les emmènes avec moi, on va adorer ensemble. Très simple comme mission, Seigneur, merci beaucoup. Waouh. Et Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et depuis des semaines, devant Dieu, je vous promets, je pleure et je dis, Seigneur, je ne suis pas capable du tout d'amener le réveil que tu m'as montré en esprit. Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, je ne sais pas si je vais être capable, avec l'église d'Hosanna, d'amener ce réveil. Et il me dit, mais qui te parle de tes capacités? Non, tu es incapable, tu as bien raison. Je fais d'accord, Seigneur, on est d'accord sur un point. Je suis incapable. C'est pour cela, il me dit, que je vais t'accompagner. Et je me suis rappelé ce passage et j'ai lu encore ce passage plusieurs fois depuis 2 semaines et j'ai découvert une chose puissante et j'ai lu un homme de Dieu qui a dit la même chose aujourd'hui. J'étais choqué de voir ce qu'il disait dans son livre, Bill Johnson. Et dans Exode 3:12, écoutez ça, Dieu répond à la question et il dit « Je serai avec toi ». Oui, sœur, je ne sais pas pour vous, mais si par exemple, tu demandes à quelqu'un « Dis-moi qui je suis » et il te répond « Je serai avec toi », tu peux dire « Hors sujet ». Tu arrives devant Dieu, le Seigneur, qui suis-je? Et il dit, ouais, je serai avec toi. Il y a un problème. Non, non. Dieu n'est pas en train de répondre à côté. Écoutez ça. Quand Moïse a dit à Dieu, Seigneur, qui suis-je? Dieu a répondu, tu es celui avec lequel je vais marcher. Tu es celui avec lequel je veux passer du temps. Je vais prendre un langage un peu plus contemporain. Tu es celui avec lequel je veux traîner. Tu es celui avec lequel je veux discuter et parler. Qui tu es? Tu es celui avec lequel je vais passer du temps. Je vais marcher avec toi. Écoutez ça, Église. La présence de Dieu te donne une idée précise de ton identité. Tu n'as pas besoin de talent, de don au-delà de la forme. Oui, c'est bien d'être talentueux. Vaut mieux bien chanter que chanter faux. Ça, c'est clair. Je l'avoue, quand je chante, je sais que beaucoup de gens me disent « Seigneur Jésus, prends-nous maintenant, emmène-nous au ciel. » Mais ce n'est pas grave. Église, ce qui fera la différence dans ma vie, celle de mon épouse, de mes filles, du pasteur Steve, sa famille, des pasteurs à Hosanna, de tous les leaders et de l'Église, du groupe de louanges, ce n'est certainement pas nos talents, notre intelligence, nos projets, nos idées. Ce qui fera la différence à vie, à la Réunion et en France, c'est la présence de Dieu parmi nous. Et il dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alors, vous savez, je vais aller plus vite ce soir, mais ce qui m'a interpellé ce soir, c'est que Dieu appelle Moïse et son peuple non seulement à sortir d'Égypte. Et des fois, je vous regarde et je vous vois tellement déconnecté que je suis extrêmement inquiet pour certains d'entre vous. Je vous vois en train, des fois, je pleure. Vraiment d'être vrai ce soir, je regarde l'église de Christ en France, à La Réunion, je regarde ce soir quelques-uns parmi vous, vous êtes là, vous êtes totalement dépassés par les événements, mais simplement, frères et sœurs, comprenez mon cœur ce soir, tu es là où tu veux être. Tu n'es pas là où l'autre veut que tu sois, tu n'es pas là où le pasteur veut que tu sois, ta relation avec Dieu ne dépend pas de moi, elle dépend de toi. Ta capacité à avoir soif de Dieu dépend de toi. Ta capacité à aller chercher la présence de Dieu dépend de toi. Ta capacité à mettre l'ennemi en fuite dépend de toi. Ta capacité à voir ton couple changer dépend de toi aussi. Si nous collaborons avec Dieu, nous verrons de grandes choses. S'il y a une chose que le Saint-Esprit est en train de crier haut et fort à l'église en France, c'est réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, dit Dieu. Je sens fortement ce soir, Dieu dit à l'église, réveille-toi. C'est quoi cette église qui dit, ah oh, c'est trop dur, j'arrive pas, je gagne plus. Mon œil, ouais. Dieu est plus vainqueur et plus puissant que vous et moi, plus puissant que l'ennemi, Dieu est plus que vainqueur. Ok, ce soir je vais vous dire l'église. Je veux dire ce que l'ennemi a en tête, ce que l'ennemi est en train de faire pour beaucoup d'entre vous ce soir, pas seulement aux Hosanna, mais en France. L'ennemi veut votre peau et moi j'aurai la sienne. La phrase clé dans Exode 7:16, lorsque Dieu parle à Moïse et Moïse parle à Pharaon et Pharaon doit écouter ce que Dieu dit et Pharaon ce soir symbolise le diable, je vais aller vite ce soir mais soyez attentifs, je veux vraiment ce soir secouer l'église, je veux vraiment vous dire en tant que prophète, Dieu dit réveille-toi. Vous savez si vous ne savez pas ce qu'un prophète, un vrai prophète, il y a plein de caractéristiques mais une des caractéristiques d'un vrai prophète c'est qu'il va te bouger de ta chaise. Un vrai prophète va mettre le feu sous ton derrière. Un vrai prophète ne va jamais te laisser dans une zone de confort. La zone de confort, c'est le cercueil du monde de l'homme. Écoute ça. Ta zone de confort, chers amis canadiens, chers amis français et réunionnais, ta zone de confort, c'est le cercueil de l'homme spirituel. Tu fais ce que tu veux, mais dès que tu es un peu trop confortable dans une église et que tu n'es pas capable de prendre le taureau par les cornes, dans Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois faire après. Tu es mort, bien que vivant. Je priais aujourd'hui, je dis, Seigneur, et je vais être franc avec vous ce soir, je vois mon cœur. Je priais en disant, Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire demain. Et il me répondit en me disant, va lire l'histoire d'Abraham. Seigneur, je connais l'histoire d'Abraham, presque par cœur, je l'ai lu des dizaines de fois. Il me dit, va la relire. Je vais la relire et j'ai surpris cette nouveauté dans ma lecture. Dieu donne une parole prophétique, une vision, une promesse à Abraham. Et il dit, le lieu dans lequel tu te tiens n'est plus le bon endroit, sors de là. Mais il ne nous dit pas où aller. Vous avez remarqué ça? Il ne dit pas, quitte là, mais va là-bas. La plupart des chrétiens ne bougeront jamais de leur lieu tant que tu n'auras pas dit, va là-bas. Du coup, ils restent toute leur vie dans la terre des petits fruits. Toute leur vie, ils restent dans leur cercueil, à se morfondre, à dire, Dieu est grand, mais, Dieu ceci, mais, et plein de mémés. Et Abraham a décidé de quitter le lieu dans lequel il se trouvait, sans savoir où aller. La parole prophétique n'est pas toujours censée te dire où aller. Elle peut aussi te dire là où ne pas rester. Alors là, déjà ça chauffe. Et ce que Dieu dit ce soir à l'église, il dit, ne reste pas là où tu es dans l'esprit. Laisse-moi te montrer autre chose. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu, c'est... La Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu répond à toutes les questions? Oui ou non? Qui croit que c'est oui? Qui croit que c'est non? Combien de gens dans ce lieu, vous avez besoin de trouver une femme, vous marier? Qui veut trouver une femme? Jeune homme? N'ayez pas honte, levez bien la main. On priera pour vous. Timothée, t'as 14 ans, arrête. Trouvez-moi un verset dans lequel la parole de Dieu vous dit quelle femme vous mariez. Avec un vous mariez. Non, je ne sais pas. Il n'y a aucun verset qui dit, Stéphane, tu te marieras avec Gertrude. Aucune. Combien d'entre vous, vous voulez trouver un emploi? Ok. Est-ce que dans la parole de Dieu, il y a des versets qui disent exactement quel emploi tu dois prendre? Non. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est une invitation à découvrir Dieu et être toujours prêt à aller plus loin avec lui. La Bible, c'est les principes de la parole de Dieu, comment Dieu fait les choses, comment il pense, comment il son caractère, c'est ses façons de penser. Mais la Bible n'est qu'une invitation, une belle invitation à découvrir le Dieu de la Bible. Et donc, quand l'Église commence à stagner, c'est le temps que Dieu dit, attends, là tu stagnes. Mon Saint-Esprit dit dans Jean 15, 16 et 17, mon Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité, pour te montrer des choses nouvelles, cachées, que personne ne connaît. Invoque-moi, je te répondrai. Je sens dans mon cœur ce soir que Dieu dit à l'Église, réveille-toi, invoque-moi et je te répondrai. On a l'histoire ce soir et Moïse dit à Pharaon, Dieu dit à Pharaon au travers de Moïse, laisse aller mon peuple, verset 16, d'accord, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert, qu'il me serve dans le désert. Et nous verrons que cette phrase-là arrive plusieurs fois dans Exode 8, Exode 9, Exode 10. Et comme vous le savez, Satan, Pharaon, ne veut pas laisser le peuple de Dieu aller dans le désert pour adorer. Une chose importante ce soir, le but de Moïse n'était pas simplement de délivrer le peuple de Dieu de l'Égypte. Le but de Dieu était de libérer le peuple de Dieu et de l'amener pour adorer. Église, ça ne suffit pas de quitter le monde. Il faut devenir un adorateur. Ça ne suffit pas simplement de dire, je vais à l'église, je ne suis pas dans le monde, je suis racheté. Ça ne suffit pas. Ce que Dieu veut, c'est que tu deviennes un adorateur. Ça ne suffit pas que l'église fasse juste les bonnes choses, ne jure pas, ne fume pas, ne boit pas, ne fait pas ceci. Ce n'est pas suffisant. Ce que Dieu veut, c'est que nous devenions des adorateurs. Seuls les adorateurs ont la puissance de Dieu avec eux. Pas un chrétien qui vient, qui marche, qui chante un chant. Un adorateur. Tout le monde dit un adorateur. Écoutez bien ça rapidement ce soir. Les choses que le diable fait pour t'empêcher de grandir, devenir un adorateur et de faire les choses selon Dieu. Au verset 25 du chapitre 8, Exode 8, 25. La parole de Dieu dit ici, « Pharaon appela Moïse à Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Pharaon dit à l'église ce soir, « Vas-y, va à l'église, tu sais, adore Dieu, mais reste dans la zone de confort. Reste là où tu es habitué. Reste là où tu as toujours été. » T'es déprimé, t'es fatigué, t'es endetté, t'as un problème, ben adore Dieu, mais juste là, bouge pas trop, ne fais pas des choses trop différentes, mais ce que Dieu veut, c'est que Dieu veut vraiment que toi et moi, nous puissions faire des choses largement au-delà de ce que vous et moi, nous avons appris à faire. Entre termes, frères et sœurs, il y a une chose qui ne marchera jamais, c'est une adoration de complaisance, une adoration religieuse, une adoration que nous faisons par habitude. Dieu ce soir appelle son église à devenir des adorateurs passionnés, totalement libérés, totalement fous. Oh là là. Jésus est arrivé sur terre, il est invité à un mariage. J'étais choqué par ça cette semaine, je lisais encore les évangiles, j'aime lire les évangiles, j'aime lire comment Jésus agit. Écoutez ça, Jésus arrive au mariage et la fête est déjà extraordinairement en train de faire, les gars font la fête, ils sont heureux, ils ont le vin, il n'y a plus de vin d'ailleurs. Les gars sont, en jargon d'aujourd'hui, déchirés. Jésus arrive et Jésus a une valeur ajoutée à la fête. Jésus augmente la fête. Il dit, ben les gars, c'est super, je vais augmenter la fête. Tiens, plus de vin et le meilleur vin. Combien de chrétiens arriveraient dans une fête du monde et qui seraient en train de dire, et les gens disent, waouh, viens, tu sais quoi, dès que tu arrives, la fête change radicalement, tu améliores la fête. Ou un chrétien qui rentre dans une fête du monde plombe la fête. Oh, espèce de pécheur. Oh, toi, alcoolique. Et toi, adultère. Oh, toi, drogué. Moi, je suis saint. Alléluia. Viens, suis-moi. On va à l'église. À l'église, c'est mortel. Ça, c'est pas le Dieu, hein? Non. Dieu, Jésus arrive sur la place et il fait, salut, ça va? Il vous manque du vin? Eh ben, c'est ça. On va prendre les vases des sacrificateurs. On met le meilleur vin dedans. On fait un petit miracle. Et bam, la fête prend une proportion totalement différente. La fête devient extraordinaire, elle devient historique, enregistrée dans les évangiles, pour que le monde entier, des siècles après, puisse continuer à lire ce que Jésus fait dans une fête. Alors, Église, vous ne pouvez pas emmener ce genre d'atmosphère dans une fête. Vous n'avez pas compris ce que signifie être un adorateur. Moi, je m'entraîne chez moi à être totalement barge, hors limite. Parfois, je défie les lois de la pesanteur. Quand je loue Dieu, je n'ai pas besoin d'une église pour louer Dieu, mais j'aime louer Dieu avec l'église. Le premier point ce soir, c'est quand ce fameux pharaon dit « Oui, ben c'est bien, adorez-moi, adorez Dieu, mais dans ce pays-là. » Non, pas question. Nous ne pouvons pas adorer Dieu. Vous savez, les gens disent souvent « Seigneur, écoutez ça, hein, le nombre de fois que j'entends ça, si c'est le plan de Dieu, si c'est le plan de Dieu, Dieu va agir, il va toucher l'église. Tu sais, mon église est morte, mais tu sais, c'est pas grave. Si c'est le plan de Dieu, il va nous redonner la vie. Mon œil, ouais. Si c'est le plan de Dieu, eh bien franchement, mon couple, il va revivre. Mon œil. Il faut pour cela qu'il y ait un catalyseur. Il faut une catalyse spirituelle. Il faut un homme ou une femme de Dieu qui débarque dans une ville, dans une nation, dans une région, dans une famille, dans un couple, qui soit rempli de Dieu et qui dise « Je vais servir Dieu, suis-moi chérie, toi et ma maison, vous servirez l'Éternel. » Je n'ai aucun problème pour faire prier mes filles, chanter, louer. Deux petites filles comme dans le monde, elles aiment les Barbies. Dernièrement, j'ai entendu Lisa faire prier Barbie, j'étais content. Barbie a prié, je suis content pour elle. Elle est sauvée, Steve. Écoutez ça, Exode 8, verset 28. Premier point, c'est que Satan va tout faire pour te faire adorer Jésus, mais de façon vraiment, vraiment basique, habituelle, dans le même petit truc. Non, non, Dieu veut que tu l'adores de façon totalement différente, en dehors des limites. Tout le monde dit en dehors des limites. Le verset 28 nous dit, Pharaon dit ok, c'est bon, bah ok, ben, je vous laisse aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Il dit ok, vas-y, mais pas trop loin, quoi. Tu sais, ça me parle des chrétiens qui veulent adorer Dieu, mais à leur façon, qui ne veulent jamais tester des choses différentes, presque fanatiques. Tu sais, on a peur d'être extrême. Mais Dieu est extrême, les gars. Dieu est extrême. Dieu est très extrême. Si vous et moi devions créer le ciel, on aurait créé le ciel, mais peut-être pas trop grand. Dieu a créé un ciel, c'est tellement grand qu'il faut des siècles pour le traverser. Il a créé l'univers, il a dit, bon, je veux tellement être extrême, je vais créer l'univers, bouf. Et c'est en perpétuel mouvement, c'est en mouvement directionnel constant. Je dis, puis bon, je veux aussi créer quelques arbres, les milliers, les millions d'espèces, puis des animaux et des insectes, par millions. Dieu est extrême. Il n'y a pas un homme pareil, il n'y a pas une femme pareille, tous différents, l'empreinte de celle-ci. Dieu est extrême. C'est un truc que je ne supporte plus dans l'église, c'est quand on me dit, tu sais, il faut faire les choses, mais bon, tu sais, il ne faut pas trop faire beaucoup, beaucoup, trop beaucoup, hein, parce que bon, tu comprends. Ouh ! Donne l'image de ton Dieu, fais les choses avec extrémisme. Dimanche dernier, je crois que c'est ça, le 3 juin, j'ai fêté mes 33 ans, mes 36 ans. Et je suis arrivé chez un couple qui m'a accueilli ce dimanche midi avec ma famille. Et quand je suis arrivé, j'ai été choqué. Ce couple-là avait loué, ils avaient loué pour moi des tentes. Pas des tentes d'Indiens, tu sais, chez Score, hein, je parle des tentes. Ils avaient acheté apparemment des tables, toutes, c'est quoi ? Comment on dit ? La vaisselle, les verres, les fleurs, ils avaient tué un agneau. Un bagnou. J'arrivais, j'étais choqué par l'excellence, l'extravagance. Croyez-moi, sans qu'ils me disent rien, j'ai tout de suite senti l'amour. J'ai dit, waouh, je suis aimé. Et je me suis senti aimé et important. Quand on est extrême comme Dieu, notre adoration, notre louange, il sait qu'il est aimé. Et il sait qu'à nos yeux, il est important. Il manque encore 5 minutes ou une heure. Vous savez, quand j'ai souvent le privilège, l'honneur, la joie, parfois la douleur de m'asseoir avec des couples. Et parfois dans les couples, je vois des gens qui me disent, tu sais, moi, je suis introverti et je n'arrive pas à dire à mon mari, je t'aime. En général, dans mon cœur, j'ai deux choses qui se passent. J'ai une envie de pleurer en disant, waouh, c'est triste. Puis j'ai une envie de claquer. Je vous promets, je sais que beaucoup de respect. J'ai envie de lui dire, ah, jette ta tête dans ma main une seconde, s'il te plaît. Non, mais jette, parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse aimer quelqu'un sans le montrer. Ce n'est pas normal. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce n'est pas juste, c'est une bonne idée. J'aime les gens. Il s'est donné. Un des signes d'un amour sincère entre un homme et une femme et un des signes d'un amour sincère entre Dieu et son peuple, c'est l'affection. Caresse ses cheveux, tu embrasses sa main, tu embrasses son pied et plus si affinité. Il y a un truc qui se dégage. Si ton mari vient te voir en disant « Chérie, je t'aime !» Ou il vient te voir et dit, chérie, je t'aime. Je suis fou de toi. Tu me fais craquer. Tu es la mélodie qui donne un sens à mon rythme. Ou tu es l'huile qui graisse mon moteur. Je sais pas, un truc. Ça, c'est entre des amis et moi. Et qu'est-ce qui est plus doux? Donc il y a quelque chose qui se dégage. Lorsque l'Église commence à être passionnée, elle a envie d'aimer Jésus. Il y a une affection qui se dégage, pareil, entre frères et sœurs. Avez-vous déjà été dans une atmosphère comme ce soir, où Dieu est présent et vous êtes en train d'adorer Jésus? Oui, non. Aidez-moi. Qui a déjà vécu un moment d'adoration intense avec Jésus? Ok. Dans ce moment précis-là, le moment d'adoration, avez-vous envie de claquer le mari ou la femme ou le voisin? Non, t'as pas envie, t'as envie de l'aimer, même si t'es énervé avant la réunion. T'as envie de dire, oh chérie, c'est pas grave, je t'aime quand même. Dans l'adoration, il y a un truc qui se passe. Après, je sais pas, mais pendant, c'est mieux. Ce qui m'inquiète, c'est lorsque l'Église perd la profondeur de l'adoration, lorsqu'on ramène l'adoration à un moment le dimanche, on se dit, ouais, ben on vient chanter un chant. L'adoration, c'est un style de vie où tout devient presque fanatique, extrême, extraordinaire, extravagant. Quelle différence il y a entre l'ordinaire et l'extraordinaire ? L'extra. De faire la chose qui est juste extra. Dans le psaume 42, verset 7, vous lirez chez vous, mais la Bible dit « Comme un flot appelle notre flot. » Dieu est en train de dire « Il y a des flots dans ma vie, on va de plus en plus profond. Avec Dieu, on creuse toujours, on va toujours plus haut. Dieu n'est jamais en stagnation, Dieu n'est jamais sur place. Dieu est toujours en mouvement. Quand tu es avec Dieu, mon ami, ton adoration décolle tout le temps. » J'essaie ce soir de te faire comprendre une chose importante. Tu dois ce soir prendre la décision de secouer un peu ta vie, de te repentir de ta torpeur si elle est là. Si tu viens de notre église, si tu es membre de je sais pas quoi, repends-toi, prends ta vie, secoue-toi, loue ton Seigneur, commence à prendre les prophéties, proclame-les. Si ton mari est à l'ouest, prends-le, ramène-le à l'est. Secoue ton mari avec la présence de Dieu, prie. Dans Exode 10, verset 11, Exode 10, verset 11. Pharaon dit encore, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel. Car c'est là ce que vous avez demandé. Et Pharaon dit au départ, adorez ici, dans le pays. Après, il dit, ok, adorez pas trop loin. Après, il dit, ok, c'est bon, allez où vous voulez, mais que les hommes, pas les femmes, pas les enfants. C'est une tragédie. Parce que dans les couples chrétiens, famille chrétienne, il y a toujours un qui est plus spirituel que l'autre. Un jour, on me dit, tu sais, mon mari, il est proche de Dieu. Moi, non. Oh, ma femme, elle est proche de Dieu, moi non. C'est pas normal. Nous devrions tous les deux, si nous sommes membres de l'Église, grandir ensemble. Laissez-moi vous donner un témoignage rapide, mes amis. Il y a environ 5 ans de cela, quand Dieu m'a demandé de quitter la Réunion pour aller en Afrique du Sud. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles je devais absolument quitter le ministère pour une saison, et aller en probation, et aller en formation, et prendre une année sabbatique pendant un an, je n'ai rien fait. C'est parce que pendant 6 ans, j'ai servi Dieu en laissant Élodie de côté. J'ai abandonné ma partenaire. J'ai dit, toi tu aimes Dieu, c'est bon, moi chez moi, toi tu fais le tien, chacun de côté, on aime Dieu, toi tu chantes, moi je prêche. Et j'ai lu des bouquins, j'ai prié, j'ai cherché Dieu, et je ne me suis pas soucié de savoir si ma femme grandissait avec moi. Et ça, c'est un péché grave. Parce que Dieu m'a dit, comment peux-tu prendre soin de mon peuple si tu n'es pas capable de prendre soin de ta femme ? Je jaugerai ta capacité à prendre soin de mon peuple en fonction de ta capacité à prendre soin de ta femme. Est-ce qui veut avoir plus de faveur de Dieu dans sa vie? Sérieusement, qui aimerait avoir la faveur de Dieu? Les gars, la faveur de Dieu, c'est bien. Hein, la Bible dit que celui à qui Dieu donne sa faveur, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Écoutez bien ça. Dieu ne nous donnera pas plus de faveur s'il ne trouve pas fidèle dans la gestion de la faveur que nous avons aujourd'hui. Nous avons reçu chacun une mesure de faveur de Dieu. Par exemple, une épouse, c'est une faveur que Dieu nous fait. Un mari, c'est une faveur que Dieu vous fait. Merci madame. Au moins une sœur, le reste des autres sœurs, je prie pour vos maris. Vos enfants sont des faveurs que Dieu vous fait. Ce sont des trésors, ce sont des flèches. Il vous donne des enfants, pas pour rien. Écoutez ça. Il y a un danger ce soir. En France, en francophonie, à La Réunion, à Hosanna, partout. Que dans les couples ou dans les familles, il n'y ait pas l'unité spirituelle requise pour faire la différence dans le monde de l'esprit. Et lorsque des couples brisés ou des familles brisées viennent dans l'église, on a beau prier ensemble, si les couples ne sont pas unis, l'église sera fragilisée. Il faut faire des efforts sérieux, radicaux, dangereusement dangereux, de venir sur vos deux genoux et dire, chérie, pardonne-moi. Si j'ai fauté contre toi, si j'ai un mari qui est à l'ouest, pardonne-moi. Dis-moi s'il faut que je change. Et femme, s'il te plaît, ne dis pas. Eh ben, bienvenue, voilà ma liste. 496 pages. Vas-y, cool. Chérie, pour commencer, commence pas en disant « perds 20 kilos ». Non, commence par ça. Mets ça après. Dis pas « arrête de ronfler », mais mets ça largement après. C'est impossible, il faut faire opérer le pauvre gars, c'est dur, quoi. Commencez ce soir. Qui a envie ce soir de voir l'unité dans sa maison? Parce que c'est un choix. Écoutez bien ça, je parle de quoi? De l'adoration. Je parle de ce peuple que Dieu veut adorer. Mais pour adorer, il faut passer les obstacles de l'ennemi. Il faut arrêter de se dire c'est trop difficile, c'est trop loin, sacrifice ceci, sacrifice cela. Il faut avoir l'unité. Dieu veut des adorateurs. Pas des membres d'église qui remplissent des chaises. Il veut des adorateurs. Et quand un peuple d'adorateurs élève sa voix, le diable se prend une correction. Et enfin, dans Exode, chapitre je ne sais plus. Non, c'est plus loin. Quand il dit, allez adorer, mais laissez là vos troupeaux. Votre bétail, c'est dans quel passage ça? 10-24? Ouais, c'est ça. 10-24 nous dit, le Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vous et vos enfants pourront aller adorer Dieu. Donc ça, là, Satan, il dit, sans qu'il perde un peu le match, il dit, bon, écoute, va adorer où tu veux. Va adorer avec tes enfants, va adorer avec ta femme, va adorer, fais ce que tu veux, chante des chants. Mais par contre, laisse ici tes bœufs, tes brebis, ton troupeau. Ça parle des finances. Il dit, laisse tes finances ici. S'il y a une chose, frères et sœurs, j'ai vu dans ma vie, c'est dès l'instant où je suis encore prisonnier de mes finances, c'est que je ne suis pas capable d'être un vrai adorateur. Je viens de plomber l'esprit, la soirée est radicalement différente. Dès l'instant où Satan est capable de nous faire croire qu'on peut adorer Jésus, aller à l'église, faire de bonnes choses, mais ne pas utiliser nos ressources, nos finances, nos talents et nos dons, on met de côté cela, là je suis spirituel, là je ne suis pas spirituel. Mon ami, tout ce que tu fais est spirituel. Tout ce que tu es est spirituel. Tout ce que je suis doit donner une leçon très forte à ceux qui m'entourent en disant, tu sais quoi Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je suis, je t'adore. Exode 12, 31 nous dit ce soir, 31, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous. Sortez du milieu de mon peuple, vous, les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme Dieu vous l'a dit. Tu vois, il y a plusieurs paliers à passer avant de devenir un adorateur selon le cœur de Dieu. Un adorateur qui adore Dieu comme Dieu le demande. Il faut passer le cap d'être tenté par ce qu'on connaît déjà, la zone de confort. Il faut passer le cap de vouloir faire les choses, tu sais, juste à côté de ce que l'on sait, pas trop loin, pas trop extrême, pas trop extravagant, pas trop, tu sais, il faut juste bon, petite chose. Il faut passer le cap de vouloir adorer seul, sans penser à sa femme, ses enfants, sa famille. Non, il faut intégrer ceux qui sont autour de nous, intégrer nos familles à notre adoration. L'adoration, ce n'est pas un chant, l'adoration, c'est le service. Pour moi, l'adoration, c'est la manifestation de la réalité que je suis le temple de Dieu. L'adoration, c'est la manifestation de la réalité que je suis le temple de Dieu. Et le verset 34, je crois. Ouais, 34. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et leur mirent sur leurs épaules. Verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent, écoutez ça, ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. J'adore. L'Éternel fit trouver grâce au peuple au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Tu vois, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'un vrai adorateur attend que l'ennemi lui livre sa richesse. Un adorateur est tellement connecté à Dieu que Dieu va voir le peuple égyptien et dit: vous allez donner à mon peuple tout ce que vous possédez. Le peuple arrive dans l'adoration, rempli de Dieu. Et Dieu refait les Égyptiens: tu vois, t'as ça, ouais, ça c'est pour moi. Et ben ça aussi. Et ce monnaie-là, allez, pape, je le prends. De Picasso, c'est pour moi. Ferrari, Porsche, je fais ça exprès pour vous montrer un peu l'image. Porsche, Ferrari, ah, hélicoptère, c'est pour moi. Je prends les deux jets aussi. Ah, c'est un beau yacht. T'as un beau yacht, je prends aussi le yacht. Et les gars disent: ok, monsieur, si tu veux, tiens, mais prends. Le jour d'avant, c'était ennemi, esclave. Mais une adoration réelle change tout. Une vie d'adoration change tout. Un moment avec Dieu change tout. Quand tu entends le cœur de Dieu et tu es un adorateur, Dieu va dire à tes ennemis: tu vas le bénir, tu vas bénir mon fils. Église, ce soir, je vais vous montrer une chose importante. Hosanna est devant des défis pharaoniques, c'est le cas de le dire. Nous allons devoir traverser la mer rouge, rouge fluo sur ce coup-là. Combien de talents nous faut-il pour ouvrir la mer rouge? Il faut un bâton dans la main d'un homme fidèle qui croit en Dieu. Combien de talents avez-vous besoin pour apprendre à crier? Qui prend des leçons de criage? Crier devant les murs de Jéricho. Ce soir, Dieu veut dire à l'église: il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et quand tu es un adorateur, Dieu s'arrange pour que tout ce dont tu as besoin pour aller en voyage avec lui soit pourvu par ton ennemi. Je ne parle pas des hommes et des femmes, ok? Je ne parle pas de la chair, je parle d'ennemis spirituels. Je parle, certains d'entre vous, vous avez des problèmes financiers, d'autres des problèmes physiques. Dieu veut et capable de faire des miracles extraordinaires dans notre vie dans un moment d'adoration. Alors, ce qu'on va faire ce week-end, ce soir, demain, toute la journée, pour ceux qui peuvent, et dimanche matin. Je vous lance un défi ce soir. On sera là dimanche matin, on priera pour vous. Dieu fera des grandes choses, mais combien ce soir vous avez envie de prendre Dieu au mot? Et de me dire ce soir, en tant que membre de l'église, vous allez passer une heure ou deux heures ou trois heures, je ne sais pas, une heure ou deux, avant dimanche matin, à 9h ici à célébration, dans une adoration passionnée. Qui est réellement capable de dire: tu sais quoi, j'ai pas envie de faire un truc religieux, j'ai pas envie d'être tiède, je veux aller dans un moment de louange avec Dieu, je veux le louer, et je vous garantis que si vous le faites de tout votre cœur, vous allez sortir de là changé, en sachant que Dieu est plus que vainqueur. Vous savez ce qui me tient moi souvent? Ce qui me tient, c'est de savoir que lorsque j'ai pas le moral, je cours dans sa présence, je mets à l'adorer, et tout d'un coup l'atmosphère change. Et tout d'un coup je vois que tout ce qui était des obstacles deviennent des marchepieds. Amen. Prions ce soir. Saint-Esprit, nos yeux sont sur toi. L'Église a besoin réellement, sincèrement, Seigneur, moi le premier, l'Église a besoin de quitter le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je parle dans l'esprit. On a besoin de découvrir des choses nouvelles avec toi. Parfois et souvent, ce que nous connaissons déjà fait obstacle à ce que tu veux nous apprendre. Ce soir, Seigneur, réveille-nous. Apprends-nous à être tellement fou amoureux de Dieu, fou amoureux de ta présence. Qui est Pharaon pour faire face au Dieu que je sers? Apprends-moi ce soir à être un homme d'adoration. Apprends-moi à être une femme, une adoratrice, un adorateur qui secoue le monde de l'esprit. Je veux rejoindre ce soir l'armée céleste qui loue jour et nuit et qui fait la différence. Seigneur, souvent tu m'as montré comment dans ma louange, dans mon adoration, j'ai pu avoir accès à des trésors inestimables, des richesses, des révélations, des promesses, des prophéties, des finances, des dons. Seigneur, je t'en supplie ce soir que ce peuple puisse prendre la décision de se dire: ok Seigneur, Je vais le faire à ta façon. Je vais passer le cap. Je vais faire la différence. Je vais pas attendre que les choses bougent. Je vais bouger les choses par ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Acclamons très fort le roi. Amen, Église. J'ai vraiment un cœur ce soir de donner ce message simple et court, mais c'est important de comprendre. Et je vous garantis, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous savez, avant, j'étais démoralisé quand je quittais l'église en disant « Seigneur, je ne sais pas si l'église m'a entendu, je ne sais pas si les gens m'ont compris, je ne sais pas si... » Et Dieu m'a dit « Ce n'est pas ton problème, ton problème c'est de délivrer le message. » Et il me dit « Maintenant, c'est à vous d'être responsable, d'écouter la parole de Dieu, de lire les passages, de dire « Seigneur, je veux vivre ta parole. » Rien n'est plus dangereux qu'un chrétien qui entend la parole et qui ne la met pas en pratique. C'est un chrétien que Dieu, avec qui Dieu ne pourra pas travailler. Il vous aime, vous irez au ciel, mais vous ne ferez rien de puissant sur terre. Et c'est pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut qu'on soit tellement rempli de lui, tellement rempli de puissance. Est-ce que Gisèle est là ce soir? Gisèle? Pas venue ce soir? Non. Une femme qui s'appelle Gisèle est venue me voir dimanche matin. Elle m'a dit, elle a donné son cœur à Jésus il y a un mois de cela, en écoutant le message, vas-y, couvre, vas-y, vas-y, fonce, je te couvre. Elle était à la réunion, elle a écouté le message, et elle a donné son cœur à Jésus, et elle a écrit au site enseignement.com, elle a demandé au gars du site de savoir, de lui trouver une église à la réunion. Ils lui ont dit, bah, c'est simple, l'église à la réunion, il y a Hosanna, il y en a plusieurs. Elle m'a dit, mais c'est lui que j'ai écouté, bah, lui à la réunion, ce pasteur-là. Elle a dit, ah bon, elle clique sur le site, et elle trouve la liste des groupes de maisons. Elle se rend compte qu'elle habite non loin d'un groupe de maisons de Hosanna. Elle était à l'église dimanche matin, touchée par Dieu. Ne sous-estimons pas, amen, ce que Dieu fait en ce moment. Autre miracle, il y a un jeune homme qui m'a écrit ce matin très tôt en me disant « Pasteur, je suis en larmes, j'ai donné mon cœur à Jésus ce matin en écoutant le message « Dieu t'invite à sa table ». Il a cliqué sur un truc, il est sur un site, il m'a dit « C'était un truc irréaliste ». Il a écouté le message et dès la première seconde où il a été touché, il a pleuré une journée entière en donnant son cœur à Jésus. En métropole, je ne sais pas où d'ailleurs. Autre miracle magnifique, un couple était sur le point du divorce, il y a 2 semaines de cela. Ils avaient rendez-vous avec le juge et leur avocat pour déterminer le partage du divorce, avec qui prend quoi et tout ça. Et ils ont écouté le message, à quoi ça sert une famille. Ils se sont repentis, ils ont déchiré les documents de la demande de divorce, là, en même temps, dans une pièce, à Bayonne. Alors, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que l'église d'Hosanna est devenue trop gâtée avec du caviar pour que là-bas, en un message, la vie des gens soit transformée? Et il m'a répondu, se manquer peut-être. Il arrive un moment aujourd'hui et vous êtes dans ce moment. J'ai une bonne nouvelle pour vous et une mauvaise nouvelle pour vous. Par laquelle je commence? Non, par la bonne. La bonne, c'est que... Alors, ok, au lieu de raconter la bonne nouvelle, je vais raconter une petite histoire rapidement. D'accord, vous êtes prêts? C'est l'histoire d'un berger qui garde des poules. Non, c'est pas comment ça? Un poulailler? Non, pas poulailler. Un fermier, voilà. Un fermier qui garde des poules. Et tu savais quoi? Tous les jours... Le fermier vient voir ses petits poussins et il les nourrit. Il appelle des médecins, des vétérinaires qui donnent des cachets, des piqûres. Il les fait bronzer dans une petite cage de bronzage. Les petites poules grandissent bien. Elles font thé. On a un fermier super sympa. Il est gentil. Il donne à manger. Il nous nourrit. Il appelle des médecins. Et vous savez quoi? Au fur et à mesure, les petites poules grossissent. Elles deviennent des poules. Des grosses poules, des gros coqs, et ils sont contents, ils sont super. Puis le jour vient où le fermier arrive en sifflotant, le couteau à la main, prend la petite poule et pff, tranche la gorge, et le petit poulet se retrouve sur une table comme ça, dégusté par une famille toute entière. La morale de l'histoire est très simple et très belle, très puissante, très profonde, je le sais. Je vous engraisse en ce moment, le pasteur Steve. On vous engraisse, mais le jour viendra où Dieu va vous sacrifier. pour nourrir les autres. C'est ça, la réalité. Alors j'ai fait une prière pour laquelle vous allez sûrement m'en vouloir ou m'aimer. Je dis, Seigneur, viens prendre toutes les poules et tous les coqs d'Hosanna et viens nous offrir en sacrifice sur la table de ceux et de celles qui meurent de faim. Je déclare ce soir qu'il y a beaucoup en vous. Vous avez reçu des pépites depuis des semaines et des mois. Vous avez été gavés par la présence de Dieu. Vous avez reçu des choses extraordinaires. Arrêtez de venir pour recevoir. Venez parce que c'est bien recevoir, d'accord. Mais dans la semaine, allez donner tout ce que vous recevez. Imposez les mains aux malades. Imposez même les mains à ceux qui ne sont pas malades.